Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale de Chinebdo consacrée pendant une heure à l'art de la guerre. Vous avez bien entendu, l'art de la guerre, vous ne le connaissez peut-être pas ou peu. Il s'agit d'un traité militaire écrit en Chine il y a plus de 2000 ans. Son contenu est terriblement d'actualité. Son usage n'est pas que militaire. L'art de la guerre s'applique aussi à la médecine, à l'architecture, mais surtout à l'économie. On vous propose donc de découvrir ensemble ce traité avec deux grands spécialistes de l'art de la guerre, un militaire et un industriel. Nous découvrirons avec eux le contenu de l'art de la guerre, son origine, ses enseignements et ses applications. Yann Couder, vous êtes militaire, officier de l'armée de terre, animateur du blog Sun Tzu France, un ouvrage aussi à paraître, Sun Tzu en France, aux éditions Nuvise. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis, Jean-François Félizon, vous êtes industriel, auteur du livre « Relire l'art de la guerre » de Sun Tzu aux éditions Economica. Bonjour.
Bonjour.
Bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est une tâche un peu compliquée, un peu ambitieuse qu'on s'est donnée dans Chinebdo. C'est essayer pendant une heure de parler, de faire comprendre ce qu'il y a dans ce traité militaire, l'art de la guerre. Faut peut-être commencer par rappeler d'où ça vient, l'origine de l'art de la guerre. Je le disais en introduction, Jean-François Félizon, c'est un ouvrage qui date d'il y a plus de 2000 ans. Ça, on en est à peu près sûr.
Oui, environ 2500 ans même. Et donc, c'est un général chinois qui a écrit ce traité. Alors, ce traité, c'est pas un traité à la manière européenne, puisque c'est un traité extrêmement court. Et c'est d'ailleurs une des grandes complications, des grandes difficultés qu'on peut éprouver à vouloir le traduire, parce que le chinois classique, particulièrement le chinois classique, est extraordinairement concis. Et donc, un caractère peut vouloir dire une idée. Je vais y revenir, d'ailleurs.
D'accord. Donc, un caractère peut dire une idée. C'est un traité qui est très court, qui a traversé les époques. En quoi est-ce qu'il a pu marquer déjà son histoire à l'époque, son époque ?
Ah ben, dès le début, il a été identifié comme étant un ouvrage majeur. L'histoire légendaire raconte que Sun Tzu a donné son traité au roi de Wu, et que c'est ça qui l'a permis d'entrer à la cour et puis après de conquérir le royaume de Chu. Donc ça, c'est pour la partie histoire légendaire, mais très rapidement le traité a été identifié comme majeur, à tel point qu'il a fait partie à partir du 11e siècle des traités qu'il fallait absolument avoir lus pour tout fonctionnaire impérial qui se destinait à la carrière des armes, et que jusqu'au début du 20e siècle en Chine, il était obligatoire quand vous aspiriez à prendre des responsabilités dans l'armée chinoise, vous deviez passer un examen sur le Sun Tzu.
D'accord, donc en fait c'est un traité militaire qui a été écrit par Sun Tzu il y a 2500 ans. Lui, Sun Tzu, quel était son profil ? C'était un stratège, c'était un érudit, c'était un littéraire, c'était un politique. On sait un peu qui il était ?
Un peu de tout, mais les relations concernant le personnage lui-même sont extrêmement limitées. En fait, il y a un auteur chinois qui s'appelle Sima Qian qui a fait une histoire en de très nombreux volumes, et les allusions qu'il fait ou les histoires qu'il raconte à propos de Sun Tzu sont très limitées. Donc, objectivement, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. On connaît quelques éléments.
Il n'y a pas de biographie, d'accord. Yann Couder.
À tel point que la date que vous avancez de 2500 ans par rapport à aujourd'hui est en fait extrêmement hypothétique, et on peut même dire qu'elle est très légendaire, puisque les historiens aujourd'hui, les historiens occidentaux surtout, s'accordent à reconnaître qu'en fait ça n'aurait pas été écrit, comme le dit la légende, à la période des printemps et des automnes, qui était donc de 722 à 476 avant Jésus-Christ, mais aurait été écrit à la période suivante, à la période des royaumes combattants.
Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a des interrogations sur la date exacte.
Alors, personnellement, j'ai une théorie là-dessus, c'est une histoire de fierté. C'est une histoire de fierté. Parce que si on considère que Sun Tzu, si on s'en tient à la date officielle de Sima Qian, qui est du 6e siècle avant Jésus-Christ, à ce moment-là, on peut sans conteste considérer que Sun Tzu est le plus ancien stratège de tous les temps. Maintenant, si on doit arriver vers des dates qui se rapprochent de moins de 300, Il pourrait y avoir une concurrence avec des occidentaux comme le tacticien ou même indiens comme Catula qui sont de cette période-là. Et donc les Chinois pourraient se voir ravir le titre de ceux qui possèdent le plus ancien traité de stratégie du monde. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire de fierté qui fait que ils savent pertinemment que non, ça n'a pas été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais ils continuent à entretenir cette légende.
Alors au-delà, Jean-François Félizon, vous êtes industriel, vous connaissez très bien, vous êtes un spécialiste de ce traité militaire, l'art de la guerre. Au-delà de cette datation, est-ce que ça date du VIe siècle avant Jésus-Christ? Est-ce que ça date d'il y a 2500 ans? On ne sait pas vraiment. S'il a traversé les âges aujourd'hui, les époques, en tout cas en Chine, on a entendu Yann Couder nous dire qu'il fallait connaître Sun Tzu quand on voulait aller dans l'armée jusqu'au XXe siècle, c'est qu'il a des grands principes qui sont presque quasi universels, qu'on trouve à l'intérieur et qui fascinent.
Oui, absolument. Je crois que si c'est si connu, c'est que ça illustre parfaitement, finalement, ou ça véhicule en tout cas, pour une bonne part, la culture chinoise. Et c'est ça qui fait, comme toujours, les grands textes s'identifient à une culture s'identifie à un texte, et je crois qu'il y a là une corrélation qui est extrêmement forte. Pour reprendre juste un point de date, moi, les dates de naissance et de mort de Sun Tzu, c'est environ 544, moins 544, moins 487 avant Jésus-Christ. C'est intéressant de se rendre compte de ce qui se passe en Europe à ce moment-là. Il est contemporain d'Eschyle, le tragique grec. Il est contemporain aussi de Darius. Par contre, il est antérieur à Socrate. Voilà ce qui est à peu près certain. D'accord. Donc on est vraiment à l'époque finalement où en Grèce il y a déjà un courant très important. Il y a des choses plus anciennes, en Égypte par exemple. En Égypte, 2500 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte est déjà un royaume tout à fait florissant. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une affaire de fierté sur les dates, mais je crois que c'est totalement... On ne sait pas ce qui s'est passé avant, c'est pas forcément le premier stratège.
Alors maintenant le contenu, quand même, l'art de la guerre, on est en train de parler d'un traité militaire qui a façonné aussi la pensée chinoise aujourd'hui, donc il faudrait quand même que vous nous expliquiez aujourd'hui quels sont les grands principes de base qu'on trouve dans ce traité qui a traversé les âges.
Alors pour moi il y en a trois, et c'est ça qui est, je crois, intéressant, mais qui va pouvoir amener une certaine discussion entre nous.
Alors, les trois grands principes.
Les trois grands principes, selon moi, c'est que la stratégie procède d'une direction, c'est un chemin. On va revenir sur ce point parce que il y a un caractère, à mon avis, qui est extrêmement important sur le sujet. Et cette direction, ça s'impose à tous les membres du groupe. Alors, quand je dis le groupe, c'est l'armée, ça peut être un groupe industriel, ça peut être n'importe quel groupe social qui avance dans une certaine direction, c'est un principe que Sun Tzu défend. Ça, c'est la stratégie. Maintenant, cette règle, la stratégie, c'est donc une règle qui s'impose à tous. À l'heure de l'action, c'est complètement différent. Là, on est dans la tactique. Et la tactique, c'est au contraire quelque chose qui doit être extraordinairement souple. Sun Tzu prend l'image de l'eau qui s'écoule. Et bien, la tactique, c'est ça. Ça dépend de l'infinie variété des circonstances, comme il dit. Donc, la tactique doit s'adapter en permanence aux faits, aux gestes, aux desseins de l'adversaire à mesure qu'on les découvre.
Et puis, donc là, il part du principe qu'il y a quand même un environnement qui par nature est instable, et il faut savoir prendre corps avec un environnement instable.
Oui.
C'est profondément vrai.
On se rend bien compte que si vous n'avez pas de direction, le groupe, quel qu'il soit, va à volo. Mais inversement, si vous avez des principes clairs et simple en général, de où vous voulez aller, la façon de faire, un peu comme un voilier qui prend des bords, la façon de faire, c'est pas du tout prédéterminé, en fait. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des circonstances.
Le troisième grand principe,
c'est qu'il y a deux grandes façons de procéder. La première, c'est une approche frontale. Alors, c'est intéressant, l'approche frontale, c'est celle des Romains. Les Romains, c'était la force. Avec la force, on peut conquérir des royaumes. C'est un peu celle des Américains aujourd'hui. Les Américains ont un concept de force qui est très appliqué dans toutes leurs actions, notamment militaires. Et puis une autre action qui est latérale, et on va y revenir certainement tout à l'heure, qui elle, finalement, si je résumais d'un mot, justifie un peu la notion de stratagème. parce que c'est avec un stratagème qui est, on reviendra sur la définition de, par lequel vous embrouillez finalement l'esprit de votre adversaire, c'est une fois que vous y êtes arrivé que vous pouvez l'emporter. Et la conclusion logique de tout ça, c'est que finalement faire la guerre, si je résume et je caricature, c'est un peu bête. Il vaut mieux, à la limite, que l'ennemi se rende sans combattre, et c'est la meilleure façon, évidemment, de faire une conquête. C'est arrivé dans l'histoire hein, que les gens se soumettent, et c'est comme ça que la France a intégré la Lorraine, par exemple.
Ce qui est passionnant, c'est que là, on entend. Vous êtes un grand industriel, et à vous entendre, c'est un principe qui peut guider, bien sûr, trouver la bonne direction, s'adapter à un environnement mouvant. Et tout ce que vous nous dites là, c'est l'industriel qui parle, mais on pourrait l'entendre de la bouche du militaire, que vous êtes aussi, Yann Couder, avec nous. C'est vraiment...
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Félizan. La grande force de Sun Tzu, c'est d'avoir, donc il y a 2500 ans, établi des principes, était un des premiers, et même le premier à écrire assez intelligiblement, des principes qui relève presque du lieu commun aujourd'hui. Mais au départ, fallait bien que quelqu'un les écrive en premier. Quand il évoque la nécessité de bien planifier une opération, évidemment, oui, mais encore faut-il le dire. Quand il parle du besoin d'aller chercher le renseignement sur l'adversaire, chose qui se décline à tous les niveaux, que ce soit au niveau militaire, où effectivement vous avez ce besoin chez l'ennemi de savoir ce qu'il fait et quelles sont ses intentions, mais que vous comprenez bien qu'il peut se décliner absolument toutes les stratégies, qu'elles soient d'entreprise ou militaire. Donc, tout cela, il y a une grande part qui sont d'évidences, mais des évidences qui ont été éditées il y a 2500 ans et auxquelles aujourd'hui on peut encore toujours se référer.
Eh bien écoutez, restez avec nous dans Chine Hebdo. Dans un instant, nous allons faire une courte pause et puis reprendre cette heure consacrée à l'art de la guerre et essayer d'aller encore un peu plus en profondeur pour comprendre quels sont les grands principes que l'on trouve dans ce traité militaire écrit il y a plus de 2000 ans. Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette émission spéciale de Chine Hebdo consacrée à l'art de la guerre, ce traité militaire écrit il y a plus de 2000 ans avec mes invités Yann Couder, militaire, officier de l'armée de terre, animateur du blog Sun Tzu France. Son ouvrage apparaît être Sun Tzu en France aux éditions Nuvis, et Jean-François Félizon, industriel, auteur du livre Relire l'art de la guerre de Sun Tzu aux éditions Economica. On va maintenant essayer de comprendre quels sont ces grands principes dont vous commenciez à nous parler, que l'on trouve dans l'art de la guerre. Un point très intéressant que vous nous disiez, Jean-François Félizon, c'est un des trois grands principes, c'est une approche, une façon de procéder vis-à-vis de l'adversaire qui peut être frontale, c'est l'approche aujourd'hui qui peut être américaine ou avant c'était l'approche des Romains, et aussi l'approche latérale. Et vous nous parliez de comment embrouiller l'adversaire. En fait, à travers l'art de la guerre, il y a une sorte de guerre psychologique intense vis-à-vis de l'adversaire, et au final, vous nous disiez, lui faire comprendre qu'il vaut mieux éviter de faire la guerre. Et en fait, ce traité, l'art de la guerre, aurait très bien pu s'intituler « L'art d'éviter la guerre », non ?
C'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de pas la livrer et que l'adversaire se rende. C'est, comme le disait Yann Couder, c'est une évidence. Encore faut-il le dire.
C'est une évidence, en même temps, l'histoire nous prouve que ça ne l'était pas forcément.
Mais regardez une fable comme le corbeau et le renard. C'est très illustratif de ce que dit Sun Tzu, en fait. C'est-à-dire, vous avez un corbeau, vous avez un renard. Le renard veut manger le fromage que le maître corbeau a en son bec, et il le flatte. Il le flatte tellement en lui disant, ce qui est totalement faux, d'ailleurs, qu'il a un langage extraordinaire, que son chant est... Bon, le corbeau croasse, il laisse tomber le fromage que le renard prend. Bon, c'est typiquement une approche latérale. Le renard sait très bien qu'il ne peut pas monter à l'arbre parce que le corbeau va s'échapper. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prend une approche latérale. Donc on n'est pas dans des concepts extraordinairement théoriques ou... Non, c'est du bon sens. Du bon sens qu'a repris La Fontaine après quelques autres auteurs latins ou grecs.
C'est du bon sens écrit il y a 2500 ans. Vous, le militaire que vous êtes, Yann Couder, gagner sans combattre... éviter la force, attaquer la faiblesse, ça c'est un autre grand principe qu'on trouve dans l'art de la guerre.
Alors, ce que vous dites est extrêmement intéressant, parce que oui, c'est un des points qui sont forts dans l'art de la guerre, le fait de gagner la guerre sans combattre, et c'est à la fois quelque chose qui est très compliqué à comprendre. C'est toute la difficulté de Sun Tzu. Oui, c'est vrai, Sun Tzu dit l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut pas dire qu'on va avoir une absence de combat. L'objectif, c'est bien de faire une démonstration de force telle que l'ennemi soit dissuadé de vous attaquer. Mais il y a vraiment une notion de guerre, et il faut que vous vous mettiez dans l'état d'esprit de détruire l'adversaire et que vous fassiez en sorte que l'adversaire soit convaincu que il ne pourra qu'être détruit. Et à ce moment-là, effectivement, il pourra se soumettre sans combat. Mais il y a vraiment une notion de guerre dans ça. Et on peut envisager que si l'adversaire est un fou, et que par exemple, pour des histoires de fierté, il veuille, ou des histoires d'honneur, il veuille quand même livrer le combat, alors qu'il sait pertinemment qu'il va le perdre, eh ben, il y aura combat, et il y aura combat sanglant.
Cette psychologie du combat dont vous nous parlez, elle a façonné aussi la pensée chinoise et l'histoire chinoise, voire même asiatique, elle a réuni.
Oui, je crois qu'on peut le dire. Je souscris tout à fait ce que dit Yann Couder, c'est-à-dire que l'esprit chinois, ça n'est pas de livrer la guerre, c'est de la gagner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des cas où il faille faire la guerre, évidemment. Il faut noter simplement que les Chinois n'ont jamais déclaré la guerre depuis Gengis Khan, à personne. Donc c'est quand même un peuple qui, peut-être, n'est pas très bien compris des Américains, qui ont très peur de la puissance militaire chinoise. Les Chinois n'ont jamais déclaré la guerre. On a déclaré la guerre aux Chinois, mais pas dans l'autre sens. Mais si on applique, tous ces concepts au monde industriel, c'est amusant de voir que finalement, si vous appliquez ça, non pas en considérant que votre concurrent est votre ennemi ou votre adversaire, mais que c'est plutôt votre client qu'il s'agit de convaincre, qu'il s'agit de circonscrire, on arrive à tout ce qui concerne le marketing aujourd'hui, à partir du moment où vous avez réussi à ce que votre client soit obligé, par n'importe quelle raison, de venir acheter chez vous, eh bien, vous l'avez circonscrit. Vous l'avez vaincu, finalement, votre adversaire, sans livrer bataille.
Ne grillons pas les étapes, Jean-François, oui, parce que vous allez nous en parler tout à l'heure. Comment est-ce que vous pouvez penser et imaginer dans le monde, vous qui êtes un industriel, une OPA amicale, selon les préceptes de Sun Tzu, puisque finalement, c'est ça que vous pouvez appliquer.
On reparlera de l'OPA, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait d'OPA vraiment amicale. Mais là, je pense plutôt, par exemple, à Apple. Quand vous avez un iPhone, c'est devenu un outil obligatoire. Vous ne pouvez c'est extraordinaire de voir comment les smartphones sont devenus un outil qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas échapper, en fait.
Alors là-dessus, on va comparer Steve Jobs avec Sun Tzu, mais Steve Jobs était plus recherché, peut-être. Il a imposé le désir.
Oui, mais il a imposé le désir.
Mais Sun Tzu, lui, ne cherchait peut-être pas à imposer le désir. Je ne sais, je me trompe peut-être.
Justement, Sun Tzu, lui, cherche à modeler l'esprit de son adversaire et va par tous les moyens essayer de créer une idée chez son adversaire et lui donner le. Alors, en tant que militaire, ça sera le général adverse, mais au niveau économique, ça pourra être le consommateur ou ça pourra être le chef d'entreprise concurrent. Mais un des moyens, c'est par soi-même faire une démonstration de force avec sa propre armée et de montrer qu'on est supérieur à l'autre. Mais Sun Tzu dit également qu'il y a tout un travail de sape et de modelage à faire de l'esprit adverse pour aboutir au résultat que l'on souhaite, si possible une soumission sans combattre.
Bon, voilà, donc ce traité il y a 2500 ans, l'art de la guerre, était peut-être l'iPhone de l'époque qui a posé avec ses grands principes qui étaient entre les mains des autres. Quand on voit ces grands principes, gagner sans combattre, éviter la force, ne jamais rattraper l'ennemi qui fuit, avoir toujours conscience que l'ennemi d'aujourd'hui sera aussi peut-être le sujet de demain, il y a aussi des principes assez sages qui sont assez loin du code de chevalerie occidentale, non ?
Absolument, parce que le code de chevalerie occidentale, c'est quand même issu de l'esprit romain. Et donc, vous relisez par exemple, c'est assez extraordinaire, ça va jusqu'à Proudhon. Quand on relit la guerre et la paix de Proudhon, c'est la force. Et il considère qu'un stratagème, c'est quelque chose qui est anti-chevaleresque. Mais je reviens sur l'idée que il vaut mieux effectivement déstructurer l'adversaire que le détruire. La force, ça consiste à détruire l'adversaire. La subtilité, ça consiste à le déstructurer, c'est-à-dire à considérer que ses propres idées, sa propre conception, son propre plan, il est lui-même conscient qu'il n'est pas bon. Et alors là, effectivement, c'est la plus grande des subtilités. Si vous arrivez à dire, si vous arrivez à mettre en fait ce qu'on appelle le vide, hein, vous savez que dans la philosophie chinoise, il y a beaucoup d'opposition, mais on fait une opposition entre le vide et le plein. Mais finalement, déstructurer l'adversaire, c'est mettre dans son esprit du vide. Et du coup, il ne sait plus où il en est.
Ouais, là, on est vraiment dans la guerre psychologique. Est-ce qu'au niveau militaire, quand on voit les guerres récentes, notamment indochinoises ou guerre du Vietnam, la guerre psychologique qui a été menée là-bas peut s'assimiler à la guerre psychologique prônée par Sun Tzu ?
Complètement. Et non seulement ça peut s'assimiler, mais en plus, ça a eu pour support Sun Tzu. Les Chinois ont... via leurs services secrets, abondamment alimenté toutes les révolutions avec Sun Tzu, mais aussi Mao et plus tard Jiap, non seulement dans le bassin asiatique, mais également dans toute l'Amérique du Sud. Et à l'heure actuelle, c'est même intéressant, c'est extraordinaire, de prendre, quand vous prenez une base des FARC, par exemple, en Colombie, vous allez trouver dans la bibliothèque qui fait 20 livres, vous allez trouver des exemplaires de Sun Tzu en espagnol. Ça date donc des années 60, où les services secrets chinois avaient arrosé toutes les guérillas, parce que tous les traités, parce que les préceptes de Sun Tzu, qui, à l'origine, concernaient une guerre conventionnelle contre un ennemi qui était un ennemi semblable, en fait, s'appliquent presque mieux à un combat de guérilla qu'à un combat conventionnel.
Mais c'est peut-être ça qui est fascinant avec ce traité, l'art de la guerre, Jean-François Félizon, c'est qu'on le trouve autant dans la bibliothèque d'un membre des FARC que dans la bibliothèque dans la chambre d'un étudiant en école de commerce.
Oui, parce que ça s'applique à tout groupe que j'appelle agonique par similitude avec antagonique, c'est-à-dire qui se bat contre un autre groupe. Et je reprends ce que disait Yann Kouder à propos de la guérilla. Regardez ce que dit Sun Tzu. Il dit « Lorsque l'ennemi se repose, il faut le harasser. Lorsqu'il veut se rassasier, il faut l'affamer. Lorsqu'il fait halte, il faut le harceler. » Maintenant, qu'est-ce que dit Mao Tse-tung ?
C'est terrible.
La même chose. La même chose. Il a repris tel que... Et donc, on voit bien qu'il y a des vérités à travers ce livre qui sont assez éternels, en fait. C'est ce qui fait son succès.
Puisqu'on parle aussi un peu d'histoire à travers Sun Tzu, à travers les âges, mais est-ce que on va parler en Occident un peu de Napoléon Bonaparte, lui par exemple, Sun Tzu, soit il en a pas entendu parler, soit il a pas voulu en entendre parler.
Alors c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, le cas de Napoléon Bonaparte.
Lui terrasser l'ennemi en fuite, ce que n'auraient pas fait ceux qui appliquent les préceptes de Sun Tzu.
Pas systématiquement. On peut trouver des contre-exemples, sachant que toute la carrière de Napoléon Bonaparte a été différente. Il y a eu avec des tournants en 1805 où il a changé 1806, où il a complètement changé de stratégie. Mais indépendamment de ça, sur Napoléon Bonaparte, il faut voir quelque chose de vraiment très intéressant, c'est que quand vous allez écouter les Chinois tiennent pour acquis que Sun Tzu a lu Napoléon Bonaparte. Vous avez le grand spécialiste de Sun Tzu en Chine, Li Ying, qui va vous dire c'est évident que Napoléon a lu Sun Tzu, c'est ce qui lui a permis de faire de remporter ses batailles. En fait, c'est faux. Napoléon Bonaparte n'a jamais lu Sun Tzu. Il y a tout un tas de raisons qui plaident en sa faveur. Alors, du point de vue chronologique, effectivement, ça aurait pu être possible. La première édition de l'Art de la guerre en français est parue en 1772. Donc ça pourrait correspondre. Mais en fait, on connaît parfaitement il s'avère que Napoléon faisait des fiches de lecture de tous les livres qu'il lisait. Et Il ne fait pas partie, l'art de la guerre ne faisait pas partie de ses fiches de lecture. On connaît également, il a aussi beaucoup écrit sur la façon dont s'était élaborée sa stratégie et les idées qu'il avait. À aucun moment il ne fait de lien avec l'art de la guerre. On a beaucoup de preuves qui nous font dire avec certitude que non, Napoléon Bonaparte n'a pas connu Sun Tzu.
Sun Tzu et son traité de l'art de la guerre à travers les siècles, on en parle dans cette émission spéciale de Chine Hebdo avec mes invités Yann Couder, militaire, Jean-François Félizon, industriel. Une courte pause, les infos sur BFM Business, on se retrouve dans un instant. Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette émission spéciale de Chine Hebdo consacrée à l'art de la guerre. Ce traité militaire écrit en Chine il y a plus de 2000 ans. Son contenu est terriblement d'actualité. On le décortique aujourd'hui avec mes deux invités. Yann Couder, militaire, officier de l'armée de terre, animateur du blog Sun Tzu France. Son ouvrage à paraître, Sun Tzu en France aux éditions Nuvis. Et Jean-François Félizon, industriel, auteur du livre Relire l'art de la guerre de Sun Tzu aux éditions Economica. Jean-François Félizon, on vient d'entendre Yann Couder qui nous disait que l'art de la guerre qui a été écrit il y a à peu près 2500 ans a façonné la pensée chinoise, il a traversé les siècles en Chine et pourtant il nous dit que sa première traduction en France était en 1772. Pourquoi avoir attendu tant de temps avant de connaître cet ouvrage fondamental en Chine ?
C'est, je pense, tout simplement le moment où l'Europe découvre la Chine. Il y a, vous savez, au moment de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, il y a un certain nombre de courants d'intérêt qui est porté à la Chine, même si les souverains évidemment ne se rencontrent pas, et par voie de conséquence, avec un certain délai, eh bien on s'intéresse un peu à la littérature chinoise. Alors la première traduction du Père Amiot, aujourd'hui, elle est...
C'était un jésuite hein, à l'époque qui a introduit...
Il a fait des interprétations extraordinaires, c'est-à-dire que d'un traité qui est extrêmement court, il en a fait un vrai traité. Lui, hein. Donc je considère qu'elle est quand même extrêmement sujette à caution, même si c'est intéressant de noter que c'est la première fois qu'effectivement on essaie de traduire cet auteur.
Et à l'époque, donc après cette première traduction, Sun Tzu a eu un certain succès en France, en Europe, dans le monde. Comment est-ce que Sun Tzu s'est propagé finalement, Yann Couder ?
Alors en fait, le gros problème, c'est que donc le Père Amiot a publié son traité en 1772. Alors déjà, l'art de la guerre n'est pas sorti en tant que tel. Ça faisait partie d'un recueil d'autres textes qui s'appelait l'art militaire des Chinois et l'art de la guerre qui s'appelait pas encore comme ça. À l'époque, ça s'appelait les 13 articles, ne représentait qu'un quart de ce traité. Donc il n'était pas vraiment déjà identifié comme étant plus important que les autres. En plus, au niveau, donc, c'est un traité de stratégie militaire, et à cette époque-là, il a joué de malchance, parce que la même année sortait le traité du comte de Guibert, son essai militaire de tactique, et qui a révolutionné la pensée française et occidentale stratégique, et donc qui a complètement éclipsé.
Donc là, il y a un problème de timing, il s'est trouvé éclipsé par un autre traité
exactement.
Important, d'accord.
Et en fait, pendant deux siècles, à part quelques soubresauts d'historiens, on n'a plus du tout entendu parler de l'art de la guerre. Pas seulement en France, mais également en Occident, parce que la traduction française était la première à sortir hors du bassin asiatique. Ensuite, si on regarde, par exemple, ça ne viendra beaucoup plus tard en Russie, en 1860, en Angleterre, en 1905, en Allemagne, en 1910, donc ça n'arrivera en Occident que beaucoup plus tard. Et ce n'est pas parce que ces traductions-là, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient d'autres pays occidentaux, arrivent qu'elles connaîtront forcément du succès. Mmh. En France, la première grande réédition de l'art de la guerre va dater de 1948. Ce sera un militaire qui fera ça, qui redéterrera des grands classiques, qui s'appelait Lucien Nachin. C'est intéressant à voir du point de vue de l'historien, mais au fond, elle n'a eu que très peu d'impact. Ça sera à partir de 1971 qu'il va y avoir une édition qui va être aux éditions de l'Impensée radicale, qui en sont maintenant disparues, mais qui aura quand même une influence assez, disons, importante dans les milieux radicaux et contestataires. Beaucoup de personnes vont utiliser cette édition et vont s'approprier les propos de Sun Tzu dans les milieux radicaux et contestataires. Mais vraiment, la découverte de Sun Tzu en France, ça va être 1972, une traduction qui provient de l'américain. Il y avait un général marines américain, Samuel Griffith, qui en 1963 a traduit, a fait une très bonne traduction de l'art de la guerre, et cette traduction nous est parvenue en français en 72. Et elle est arrivée à point nommé. Elle est arrivée à un moment où donc on était en pleine guerre froide. C'était donc la montée des deux confrontations, de deux blocs qui n'avaient d'autre issue que l'affrontement nucléaire. Et on parlait tout à l'heure des voies indirectes que prenait Sun Tzu, et le modèle qui a façonné l'Occident au XXe siècle, ça a été une pensée de l'autre grand stratège mondial, c'est Clausewitz. Clausewitz, lui, prenait vraiment le principe des attaques frontales, à la différence de Sun Tzu qui, lui, essayait plutôt de manœuvrer, prenait des attaques latérales.
Donc là, vous nous parlez de ces traductions qui sont arrivées assez tardivement chez nous, des traductions jusqu'à aujourd'hui, puisque vous-même, Jean-François Félizon, vous avez fait une traduction de Sun Tzu et de l'art de la guerre. Quelle a été votre démarche exactement? Est-ce que ça a été difficile? Quelle a été votre grille de lecture et de traduction?
Oui, ça a été difficile parce que j'ai pas voulu partir d'une version en chinois moderne. Je suis parti de la version de chinois classique. Et le chinois classique, c'est pas une langue facile. C'est aussi compliqué que presque de partir de hiéroglyphes. Certes, les caractères sont à peu près les mêmes, mais le sens n'est pas le même. Et donc, grâce à mon épouse, qui est une experte qui est chinoise et qui est experte en chinois classique notamment, nous avons donc fait un travail qui a duré très longtemps d'ailleurs et qui s'est fait en deux fois parce que la première traduction, qui était une première édition, ne nous a pas satisfait et donc on a refait complètement le travail. Bon.
Et alors, aujourd'hui, donc, on peut trouver cette traduction
comme vous l'avez signalé, chez Economica.
Voilà.
Alors, toute traduction, c'est une trahison. On le sait bien. Et donc, la très grande difficulté, à mon sens, de la traduction, c'est que si vous voulez ne pas trop trahir, il faut respecter un peu l'esprit. J'avais un professeur de latin, je me rappelle, qui disait que si un auteur latin met un corps de phrase, vous savez qu'on peut mettre les mots un peu dans n'importe quel sens, mais s'il met un corps de phrase devant, c'est pas parce qu'il le met pas derrière. Donc dans la traduction, il faut qu'on découvre les idées dans le sens dans lequel l'auteur latin l'a fait. Mais là, c'est pareil. Si Sun Tzu est concis, il faut arriver à être concis. La seule difficulté, c'est que un caractère veut dire beaucoup de choses, et donc, si vous commencez à vouloir faire une périphrase autour du caractère, ce qui est souvent le cas, je crois qu'on perd énormément. En fait, on trahit un peu trop, disons, le caractère original, le texte original. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est une traduction concise. Alors, évidemment, quand on est concis, c'est un autre danger. On tombe de caribe dans celui-là. On dit, oui, mais attendez, là, vous avez pris des mots pour ce qu'ils ne veulent pas dire. Bon, il y a un exemple dont on a parlé entre nous, Yann et moi, c'est sur le mot « Dao ». Alors le mot Dao, le caractère Dao, est un point très très important parce que Sun Tzu dit que ça fait partie totalement de ce qu'un général en chef doit faire. Alors, le mot Dao, le caractère est constitué de deux clés. Je prends juste cet exemple parce que je crois que c'est intéressant. Il y a ce qu'on appelle des radicaux. L'un c'est aller et l'autre c'est en avant. Bon, à partir de là, quand on vous dit que,
avec toujours cette idée de direction que vous nous parliez
donc, et aujourd'hui, le Dao se traduit par route, chemin, doctrine, conduire, éduquer. Voilà la traduction moderne aujourd'hui sous ce caractère. Pour moi, c'est assez proche, je dis que c'est proche du concept de stratégie, dans la mesure où la stratégie, c'est effectivement conduire un groupe vers une certaine direction. Et donc, on a traduit ça par vision. On a traduit ça par vision, au sens d'une vision d'un chef qui doit être partagée par l'ensemble du groupe. Voilà, un exemple.
Ouais. Mais vous voyez que ça peut amener
à des discussions infinies.
Tout à fait. Maintenant, j'aimerais bien qu'on avec le temps qui nous reste, qu'on parle quand même alors j'allais dire les applications, non, parce que ce n'est pas un guide pratique, hein, vous
surtout
me disiez
pas,
déjà,
c'est
Jean-François Félizon. Mais en tout cas, en quoi est-ce que comment est-ce qu'on va dire ça? Allez, en quoi est-ce que l'art de la guerre est terriblement d'actualité? En quoi est-ce qu'on le voit aujourd'hui dans notre quotidien? Vous, dans votre activité, Jean-François Félizon, vous êtes un industriel. L'art de la guerre, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais vous nous disiez que vous l'appliquez pour convaincre votre concurrent que peut-être vous pouviez le racheter, que ce serait peut-être la meilleure solution pour lui. Est-ce que vous aussi, vous appliquez, vous rentrez dans une sorte de guerre psychologique, celle dont vous nous parliez, Yann Couder, dans le monde des affaires au quotidien?
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une guerre économique. Je pense qu'on est dans un monde un peu différent. La guerre est un concept qui ne s'applique pas totalement à l'économie. Mais c'est vrai que quand on fait une OPA, il y a deux éléments qui procèdent clairement d'une attitude, d'une approche latérale. La première, c'est que si vous arrivez à convaincre la société qui est votre cible, que finalement elle serait mieux d'être achetée par vous plutôt que de vivre sa vie et d'être attaquée par d'autres, c'est une manière effectivement de ne pas livrer bataille. Et puis il y a un autre aspect qui est l'approche latérale, c'est que très souvent, trop souvent je dirais, on finance l'acquisition par les dettes qu'on met sur la société cible. C'est tout l'objet des LBO. Donc on voit bien qu'on est quand même à la fois, on est assez proche du concept de Sun Tzu par lequel la destruction n'est pas forcément la meilleure formule, c'est-à-dire convaincre au contraire les actionnaires d'en face qu'il serait mieux de vendre leur titre. Un, et deux, très latéral en disant, mais finalement, il faut, c'est quelque chose que vous pouvez aussi lire dans le texte, qu'il faut s'approvisionner, que la substance par laquelle vos armées faut s'approvisionner sur l'ennemi. Et s'approvisionner sur l'ennemi, ça veut dire endetter la cible. Encore une fois, pratique probablement critiquable, mais très courante, qui fait que on arrive à acheter finalement sans bourse déliée.
Oui, Yann Couder, vous voulez dire.
Vous évoquiez dans votre question le problème des le cas des transpositions de Sun Tzu aux domaines les plus divers. Donc là, moi, je vous ai parlé, par exemple, des transpositions au domaine militaire. Jean-François Félizon vous a parlé donc au monde de l'entreprise, au domaine économique. Mais en fait, ce qui est très intéressant avec Sun Tzu, c'est qu'on se rend compte que des transpositions de l'art de la guerre, vous en avez dans absolument tous les domaines de la vie. Vous avez des livres qui existent sur l'art de la guerre appliqué pour les obèses, pour maigrir, l'art de la guerre pour les videurs de boîtes de nuit, pour les écrivains, pour les joueurs de poker. Vous avez pléthore de livres.
Pour les parents qui nous écoutent, est-ce que vous leur conseillerez de lire l'art de la guerre pour s'en inspirer peut-être pour l'éducation de leurs enfants?
Alors écoutez, je suis désolé de vous le dire, l'idée a déjà été prise. Il existe un livre, donc l'art de la guerre, The Art of War for Managing Your Children, pour vous dire, ça a déjà été fait. Et pourquoi est-ce qu'on trouve donc l'art de la guerre adapté à tous ces domaines?
C'est qu'il pose des principes quasi universels.
Et voilà. Donc effectivement, au départ, le traité s'appelle l'art de la guerre. D'ailleurs, l'art de la guerre, ce n'est que le nom qu'il lui a donné. Plus d'artiment, Sun Tzu n'a pas appelé son traité l'art de la guerre, il ne lui a même pas donné de nom, en fait il n'y avait pas de nom à l'époque qui était donné au traité. Et donc effectivement ça peut être adapté à absolument tous les domaines, et c'est le cas. Et on peut se dire, mais pourquoi on fait ça? Alors je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a un ouvrage qui existe en France qui s'appelle l'art de la guerre pour les femmes. C'est un ouvrage sur le développement personnel féminin. Quel rapport entre l'art de la guerre et le développement personnel féminin? On peut se dire, moi j'essaye de remonter et de me dire, mais comment est-ce qu'on a pu écrire ça? Eh ben, son auteur était passionné de développement personnel féminin, et elle s'est dit, mais si j'écris un ouvrage, je vais dans un rayon de ma librairie préférée, je vais voir qu'il y a déjà 200 ouvrages qui existent sur le sujet. Comment je vais pouvoir en faire un d'original? Parce que moi, je vais y mettre la couche, je vais lui dire, je vais écrire sur le développement personnel féminin à travers le prisme de l'art de la guerre. Et donc, ce livre existe physiquement, l'art de la guerre pour les femmes. C'est un livre sans doute intéressant sur le développement personnel féminin, je ne suis pas à même de juger. Sur le point de vue de l'étude de Sun Tzu, il n'y a pas grand-chose à en retirer, mais cette démarche intellectuelle, c'est celle qui fait qu'on trouve des transpositions de l'art de la guerre à tous les domaines.
Il ne manque plus que l'art de la guerre pour les nuls, hein, à vous entendre. Ça a été décliné à toutes les...
Je trouve un peu dommage que quelquefois ce soit galvaudé, c'est-à-dire que c'est devenu maintenant un peu un cliché, si vous voulez. Je voudrais me ramener à ce que disait Jean-Guy Python. Si la métaphysique est la part la plus haute de la pensée, c'est la stratégie qui lui correspond dans le domaine de l'action. Là, je crois qu'on est vraiment dans l'art de la guerre. L'application à toutes les professions diverses et variées, je trouve que c'est vraiment des clichés.
Comprendre le monde qui nous entoure à travers le prisme de l'art de la guerre, on va en parler dans un instant après une courte pause. Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette dernière partie de Chine Hebdo consacrée à l'art de la guerre, ce traité militaire écrit en Chine il y a plus de 2000 ans. On va essayer maintenant de comprendre ce monde qui nous entoure et l'actualité brûlante à travers le prisme de l'art de la guerre. Peut-être, alors on va commencer avec vous Yann Couder, puisque vous êtes militaire. Moi je voulais savoir, comment est-ce que vous voyez par exemple ce qui s'est passé en Libye avec une force internationale, une intervention avec une force de la coalition qui a justifié une action armée en disant que c'était le dernier recours, tout a été tenté. Est-ce que vous pouvez analyser et décrypter ce dossier libyen à travers le prisme de l'art de la guerre?
Alors je peux le faire à titre personnel. Maintenant, il faut bien comprendre que tous les militaires qui ont été à la tête de la conception, de la planification de cette opération n'avaient pas l'art de la guerre comme manuel de doctrine. Donc là, comme on en parlait avant la pause, je peux faire une transposition et je peux vous donner mon éclairage sur ce point-là. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas ça qui a généré les opérations en cours. Maintenant, un parallèle qui me vient, enfin, entre les propos de Sun Tzu et ce qui se passe en Libye, c'est que Sun Tzu, un des points où il est extrêmement novateur, c'est qu'il dit « Mais votre ennemi, il ne faut pas le détruire. Il ne faut pas détruire l'armée adverse. Il faut au contraire la préserver. » Alors pourquoi il disait ça? Parce qu'à l'époque, il vivait dans un monde fini.
L'ennemi d'aujourd'hui deviendra le sujet de demain.
Exactement. Il ne s'opposait pas aux barbares. Il ne s'opposait pas aux barbares qui envahissaient la Chine. Lui, son objectif, c'était le royaume d'à côté qui allait devenir son vassal et qui allait être phagocyté. Et donc, le but n'était pas de tuer les soldats qui étaient à l'origine des paysans, c'était de les faire prisonniers, puis de les relâcher, et surtout de pas détruire toute l'infrastructure civile, parce que ça allait devenir votre infrastructure civile. Et quelque part en Libye, c'est exactement ça. On ne cherche pas à éradiquer toute l'armée libyenne, on ne cherche pas à tout détruire. L'objectif, c'est toujours de penser... Qu'est-ce qui va se passer après ? La reconstruction. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, Sun Tzu est extrêmement actuel.
Aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, avec à l'heure de la globalisation, il est peut-être important de connaître ces grands principes de l'art de la guerre. On est en train de vivre en ce moment, il y a vraiment un basculement du monde qui est en cours sous nos yeux, du nord vers le sud, avec des nouveaux chocs économiques entre les pays occidentaux, les nouveaux pays développés, avec des enjeux majeurs à l'avenir. Et pour comprendre ces nouveaux rapports de force, l'enseignement de Sun Tzu peut être utile, Jean-François Félizon ?
Oui, tout à fait. Écoutez, prenons juste un exemple. Quand il fait l'apologie de la ruse c'est quoi ? C'est produire du hasard. C'est produire du hasard. Ruser, c'est produire du hasard. C'est des choses qui sont non prévisibles. On est à l'opposé du monde rationnel dans lequel on vit. Et donc, on voit bien que ce basculement, il se fait dans une culture qui peut être de force, mais qui est quand même très différente de celle à laquelle on est habitué. Je trouve fascinant de voir l'opposition naissante, finalement, entre les États-Unis et la Chine, parce que les cultures sont diamétralement opposées aujourd'hui.
Il y a un autre aspect dont on a peu parlé et dont Sun Tzu mettait l'accent, c'est sur la personnalité du chef. La personnalité du chef est aussi un aspect très fort du traité et même indispensable dans la stratégie qu'on va mettre en place. Et là, on parle du domaine économique, militaire ou
tout ça. Alors, tout à fait. Là, c'est une subtilité vraiment qu'il faut comprendre dans le traité de Sun Tzu. C'est que son traité fait 13 chapitres et le premier a une petite particularité, c'est que globalement, il ne s'adresse pas au général, mais il s'adresse plutôt au souverain. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'en fait, le souverain, c'est lui qui va prendre la décision d'engager une guerre. Et attention, une guerre échappe complètement à celui qui en donne l'ordre. Il ne pourra pas la maîtriser. Elle va engendrer des malheurs. Donc, le souverain doit prendre sa décision en pleine connaissance de cause, en sachant que ça va engendrer des malheurs. Et pour cela, la mission du souverain, ça va être de choisir en général. Donc, il y a toute une grille de lecture qui est donnée par Sun Tzu sur les qualités qui sont attendues d'un général, mais on ne s'improvise pas général, on l'est parce que le souverain a décidé de vous nommer général, vous a confié une mission, et à ce moment-là, il vous laisse l'autonomie de remplir votre mission.
Mmh. Jean-François Félizon, la personnalité du chef, ça, vous qui êtes un industriel dans un grand groupe, c'est quelque chose qui est primordial.
La transcription est immédiate. Le souverain d'une entreprise, c'est l'actionnaire. Et le général, c'est le directeur général ou le président-directeur général qui est effectivement choisi par le conseil et qui doit avoir un certain nombre de qualités, faute de quoi je ne donne pas cher de l'entreprise qu'il dirige.
Bon, écoutez, pour terminer cette heure passionnante, hein, où vous nous faites découvrir toutes les subtilités de ce traité militaire de l'art de la guerre, on va peut-être, pour votre conclusion à vous, Jean-François Félizon, peut-être voir comment est-ce que vous voyez la Chine actuelle, la Chine contemporaine. On est à un moment clé, il va y avoir une transition politique très importante à l'automne prochain. Il y a un objectif politique en Chine qui est celui d'atteindre la société harmonieuse. Est-ce que Sun Tzu est toujours en phase avec la Chine que vous voyez évoluer sous vos yeux?
Je crois qu'il faut être un peu modeste. On comprend jamais tout à fait la Chine. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est un pays qui n'est plus belliqueux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bien compris le monde économique. Il l'a remarquablement bien compris. Donc, qui jouit d'une très profonde culture. Les articles de Sun Tzu ou les articles de 36-30 AGM sont connus de tous les étudiants, de tous les écoliers. C'est un pays qui s'est créé des potentiels. Alors ça, c'est un concept qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est extrêmement important, qui peut-être pas tout à fait Sun Tzu, mais qui consiste à dire, finalement, faisons développer les situations, et il y a un moment où il faudra agir. Quand il faudra agir très vite, mais en attendant, eh bien, laissons les potentiels s'établir. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, clairement. C'est un pays qui est plein d'oppositions. Mais ça, c'est normal. Les oppositions, au niveau... Les marxistes ont parlé de contradictions, mais le vrai concept, c'est des oppositions. Le vide et le plein en est une évidente. Bon, c'est comme ça que ça marche. Donc, comprendre la Chine, c'est se rendre compte que finalement, il y a une vision différente du monde. Et c'est ça qui est, je crois, assez passionnant.
Yann Couder, vous qui êtes militaire, officier de l'armée de terre, aujourd'hui vous enseignez. Est-ce qu'on enseigne l'art de la guerre dans les écoles militaires?
Alors là encore, de la même façon, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que Napoléon avait lu l'art de la guerre, on voit très couramment écrit que l'art de la guerre est enseigné dans toutes les écoles militaires. C'est faux. C'est complètement faux. Par exemple, si je prends l'exemple de la France, ce n'est pas enseigné. Ça fait partie des recommandations de lecture. Mais il y a bien un cours de 2 heures qui est consacré à Saint-Cyr, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et si on regarde ce qui se passe dans toutes les autres armées, parce que je me suis amusé à faire une petite enquête sur la façon dont les autres armées intégraient Sun Tzu dans leur doctrine, dans leur enseignement, c'est très divers. Vous allez avoir des pays qui vont l'enseigner pendant 10 heures et d'autres qui ne vont absolument pas en parler. Globalement, on peut dire que le continent africain n'en parle absolument pas. Absolument pas. Et le continent qui en parle le plus, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Amérique du Sud. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'ils sont directement concernés par les enseignements de Sun Tzu et les conséquences de Sun Tzu sur la guérilla. Et donc c'est eux qui ont le plus fort enseignement de Sun Tzu dans les académies militaires.
Mais dites-moi, en fait, il y a quelque chose d'assez sulfureux presque, j'allais dire, dans la lecture de Sun Tzu. Vous nous disiez tout à l'heure que dans les années 70, finalement, là où ça s'est bien implanté en France, c'était dans les milieux radicaux et contestataires. Aujourd'hui, là où c'est le plus lu, c'est en Amérique du Sud, par les guérillas.
C'est une des visions très pratiques. C'est un de Sun Tzu. Oui, effectivement, ce côté guérilla, ce côté de passer à côté. On ne peut pas arriver en force, et c'est vraiment, je pense, le message principal qu'il faut retenir de Sun Tzu, c'est que le meilleur moyen pour arriver à votre objectif, ce n'est pas l'attaque brutale et frontale, c'est de passer à côté.
Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que pendant cette heure de Chine Hebdo, on vous aura donné envie de lire ou de relire l'art de la guerre de Sun Tzu, traité militaire écrit il y a 2500 ans en Chine. Merci beaucoup à mes deux invités, Yann Couder, militaire, officier de l'armée de terre, animateur du blog Sun Tzu France, avec un ouvrage à paraître, hein, Sun Tzu en France, aux éditions Nuvis, qui sort...
Il devrait sortir en octobre, novembre.
En octobre-novembre. Merci beaucoup Yann Couder, et merci beaucoup à Jean-François Félizon, industriel, auteur du livre « Relire l'art de la guerre de Sun Tzu » aux éditions Economica. Merci aussi à Nicolas Juchat qui nous a permis d'organiser cette émission et ce plateau. Nicolas Juchat du site GB Times. Très bon week-end à tous sur BFM Business.